Si vous permettez, on va reprendre le cours du séminaire pour la deuxième session, parce que l'heure tourne et nous avons encore un ordre du jour assez chargé, puisque nous n'avons fait que commencer à aborder le deuxième thème qui devait nous retenir lors de ce séminaire. Si la question essentielle est celle qui finalement est peut-être la plus importante, à savoir, est-il possible de réactiver la responsabilité, si oui, comment doit nous retenir, il reste que, on pourrait dire qu'il y a en quelque sorte une question préalable, à savoir, dans le cadre de la Ve République, en tout cas, à qui faudrait-il tenter d'imputer la responsabilité? Guy nous expliquait très bien tout à l'heure comment la disparition de la responsabilité politique de type gaullien avait eu des effets induits d'irresponsabilisation globale dans le système, soit on prend acte de l'irresponsabilité politique du chef de l'État et, dans ce cas-là, on va essayer de réactiver la responsabilité du côté des ministres. Et en ce sens, ce fait, il y aurait une logique de type anglais, si finalement le président français se comporte un peu comme un monarque irresponsable, donc il serait logique de taper sur les ministres, entre guillemets. Soit, au contraire, on essaye de concentrer la responsabilité sur le président, que ce soit devant le peuple, si c'est faisable, ou que ce soit, le cas échéant, devant le Parlement. Il me semble que c'est déjà la question, une sorte de question préalable qu'il faut résoudre avant de se demander comment concrètement réactiver, le cas échéant, la responsabilité. Et dans ce contexte-là, il y a déjà une question qui est comment interpréter la revendication de responsabilité qui est celle du président actuel, qui se dit responsable de façon, j'allais dire, rituelle et quasi permanente. En tout cas, pendant la première partie de son quinquennat, il l'a très très souvent dit. Et je reprends une citation tirée de l'article de Mme Contoreau. Il existe, dit-elle, un décalage entre se dire responsable et être responsable. Et est-ce que dans le contexte actuel, on n'est pas plutôt dans le domaine de la fiction pure en termes de responsabilité politique du président, sauf dans l'hypothèse très ponctuelle dont on parlait tout à l'heure de sa réélection. Et de ce point de vue-là, j'ai été très frappé par la lecture du texte de Necker de ces dernières vues, parlant du consulat, où le parallèle est absolument frappant, me semble-t-il, avec la Ve République récente. Necker nous dit de toute façon la responsabilité du consul, du premier consul, de toute manière elle n'aurait aucun sens ou quasiment, sauf dans le cas de sa réélection décennale, scénario qui était encore envisagé à l'époque. Le consul a de toute façon trop de pouvoir pour que la responsabilité des ministres ait un sens, donc ça vide de toute manière de substance une hypothèse de responsabilité ministérielle. Et est-ce que dans le contexte actuel, on ne devrait pas parler d'une espèce de simulacre de responsabilité présidentielle, valable de manière purement rhétorique, ou presque totalement rhétorique, pour mieux masquer sa disparition quasiment totale. Alors, dans ce contexte-là, voilà, si on veut réactiver la responsabilité via le chef de l'État, est-ce que c'est possible? C'était le point de vue qui était défendu par Marie-Pierre Contoreau dans l'article du fascicule. Est-ce que c'est réaliste et est-ce qu'on n'a pas intérêt dans ce contexte-là aussi à comparer avec le contre-exemple américain où les pères fondateurs avaient voulu, au discours de Madison en 1789 le montre, concentrer la responsabilité sur le président en pensant qu'elle serait plus efficace parce que le président serait contraint dans ce cas-là de répondre de ses subordonnés sans tenir compte du fait que s'attaquer au chef de l'État lui-même est un acte grave, un acte potentiellement déstabilisateur pour les institutions, et que finalement, la mesure a eu un résultat totalement inverse de l'objectif recherché, qui est que, sauf exception extrêmement rare, non seulement on ne met pas en cause la responsabilité du président dans la culture américaine, mais on ne met pas en cause non plus la responsabilité des ministres, parce qu'on sait que ce serait toujours susceptible de remonter jusqu'au président. Parmi d'innombrables exemples, il y avait celui de Donald Rumsfeld, par exemple, et ses agissements pendant la guerre en Irak. Nancy Pelosi, qui était alors speaker de la Chambre des représentants, avait évoqué l'hypothèse d'un impeachment contre Rumsfeld, pas contre le président, en la rejetant d'un revers de main en disant « it would be a waste of time », ce qui quand même était assez extraordinaire.
Selon toi, il a été contre la démission.
Après les élections.
Après les élections.
Oui, il n'empêche.
Bref, en tout cas, donc la question se pose, à qui imputer la responsabilité si jamais on veut la réactiver? Est-ce que ce serait au ministre ou est-ce que ce serait plutôt au chef de l'État?
Je peux commencer par une remarque. Je ne sais pas si on est tous d'accord là-dessus d'avoir un regret sur la pratique gaullienne, parce que le fait que les présidents aient accepté la cohabitation, y compris après une dissolution provoquée, donc une situation qui est encore un peu différente des de deux premières cohabitations, donc la fin de la responsabilité directe du président pour le peuple à l'occasion du référendum, je ne suis pas sûr pour ma part de la regretter. Parce que il me semble que si on inventait un mécanisme plus radical que celui qui découle finalement de la révision de 2007, imaginée par la commission Avril, et qui permettrait, bien qu'à mon avis avec des voies un peu trop complexes, de faire une campagne électorale anticipée avec un président destitué qui aura le droit de se représenter, mais même si on imaginait un mécanisme de type weimarien, autrichien, c'est-à-dire le Parlement provoque un référendum sur le maintien ou non du mandat du président, je crains que ça enferme définitivement tout le débat politique sur la question de la responsabilité électorale du président, et qu'elle maintiendrait l'irresponsabilité de tous les subordonnés du président, parce que là, pour le coup, ça remonterait au président, et on ne toucherait pas, on dirait, bon, la seule soupape, c'est la sortie vers la responsabilité présidentielle éventuelle. Je ne parle même pas de la question de l'état du système de parti qui fait qu'il est peu probable qu'on arrive à provoquer un référendum, donc sauf élection contraire que connaîtrait le président au cours de mandat, ça paraît peu envisageable, mais c'est surtout que ça risquerait de mener à une impasse, c'est-à-dire qu'on aurait une paralysie de tous les échelons subordonnés de la responsabilité des ministres et encore tous les autres collaborateurs, et ça accentuerait pendant 5 ans radicalement, je crains, les déséquilibres du régime, c'est-à-dire que là le président serait fondé à gouverner vraiment sans intermédiaire, donc faire un peu ce qui s'est produit pendant une bonne partie de ce quinquennat ici. Donc la difficulté, c'est qu'à la fois je regrette aussi que les présidents n'aient pas eu le courage dans certaines occasions de s'engager véritablement, mais ça, je crois que finalement on tombe dans une impasse de ces deux circuits d'un gouvernement distinct formellement au moins du président et de nos ressorts encore parlementaires, et disons que c'est la responsabilité intermédiaire.
Est-ce qu'il y a un consensus sur cette position que je partage personnellement, mais Jean-Marie Danquin?
Oui, alors je pense que en ce qui concerne le référendum, ça ne peut marcher à l'évidence que si le président de la République engage sa propre responsabilité. C'est une démarche purement personnelle. Et par conséquent, il suffit que le président n'ait pas cette intention, parce qu'il veut continuer à préserver les petits avantages que lui apporte sa présence à l'Élysée, et le système ne marche pas. Donc ce système est impossible parce qu'il repose sur le bénévolat de la personne qui met en cause sa responsabilité. Et d'ailleurs, le constitutionnaliste qui a le plus théorisé ça, et qui était Léo Hamon, n'avait pu trouver de réponse à cette objection. Il disait c'est très bien parce que le général de Gaulle, au bout d'un demi-septennat, fabrique un référendum pour mettre en cause sa responsabilité, ce qui d'ailleurs était un mécanisme assez étrange parce qu'on fabriquait une consultation pour pouvoir être responsable dessus, alors que le général de l'inverse. Mais en réalité, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, je pense que c'est définitivement révolu, c'était lié à la perspective générale de Gaulle, à sa conception du pouvoir, je crois que l'espèce est éteinte, on ne trouvera plus personne. Ça, c'est un point. En ce qui concerne, alors je regrette beaucoup, je fais partie de gens qui ont toujours été hostiles à la cohabitation, je regrette beaucoup qu'effectivement le principe de la cohabitation soit mis en place, mais maintenant il est mis en place, ce qui veut dire d'abord que c'est devenu une espèce de coutume, et aussi que, étant donné l'alignement, certes de fait et non de droit, mais l'alignement quand même des deux types d'élections, de la durée du mandat et la prééminence, enfin la précédente séance plutôt, de l'élection présidentielle sur l'élection et les élections législatives, il est clair que normalement ça ne fonctionnera plus. Donc il faudrait un accident conjoncturel possible mais très improbable pour que ça revienne. Et je pense effectivement que ce sont des voies fermées. Cela dit, si vous le permettez, je voudrais revenir brièvement sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, parce que ça n'est pas sans rapport avec ça. Guy a dit très, très justement qu'il fallait distinguer entre responsabilité collective et responsabilité individuelle. Je crois que c'est très important. Mais il faut ajouter aussi que cette distinction implique la disparition. La situation actuelle aboutit en fait à la disparition de la responsabilité politique, parce qu'il ne peut pas y avoir de responsabilité collective pénale. C'est contradictoire. Bon. Donc en réalité, dans cette distinction apparaît, se manifeste, le fait que la responsabilité collective, qu'on appelle la solidarité gouvernementale, en réalité ne fonctionne plus. Ou plutôt elle fonctionne, mais elle fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'autrefois, on disait, si un ministre a fait une bêtise, on renverse le gouvernement, parce que le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement sont solidaires. Aujourd'hui, on fait le contraire. On dit à un ministre qui a pris une initiative malencontreuse de s'en aller. C'est-à-dire qu'on a retourné le concept de brebis galeuse. Avant, on disait la brebis galeuse contamine tout le troupeau, donc il faut virer le troupeau. Maintenant, on dit, pour que le troupeau ne soit pas contaminé, virons la première. Et à partir de là, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la fin du Conseil des ministres, etc., à partir de là, l'idée même de solidarité gouvernementale ne fonctionne plus. Donc il y a une responsabilité individuelle. Cela dit, et là je suis d'accord avec ce qu'a dit Olivier, cette responsabilité fonctionne. Cette responsabilité individuelle fonctionne. Elle fonctionne par imputation d'un fait inacceptable à un individu. Sauf que ce fait inacceptable, il est défini politiquement et pas juridiquement. Il peut être défini juridiquement aussi, mais il est défini politiquement. On a cité un exemple tout à l'heure, moi je me souviens d'un autre. C'était sous Pompidou, je connais un peu parce que c'est un cousin d'une tante à moi, enfin peu importe. J'ai dit ça pour expliquer, je me souviens de ce détail. Le personnage en question était ministre des Postes, et lors d'une grande grève des Postes, il a dit, et il faut être gentil avec eux, il faut être compréhensif parce qu'ils font un métier un peu idiot.
Le long.
Bon, alors. Et il a été viré. Or, bon, il disait ça avec une bonne intention, c'était une démarche humaniste. C'est bon de postier, n'est-ce pas, quand même. Bon. Et puis ils sont bien utiles. Il a été viré. Or, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est difficile pénalement de sanctionner la parole du Parlement. Bon. Alors, donc, ce genre de choses, et on en a vu des exemples d'appartements. Des exemples de cigares, des exemples de cigares, c'est même outre-Atlantique aussi, enfin bref. On a vu des exemples très divers où des actes qui étaient pas juridiquement sanctionnables se sont avérés politiquement aboutir au remerciement de l'individu. C'était également le cas de Stier dont tu parles. Bon. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'il soit impossible qu'il y ait une responsabilité, y compris du chef de l'État. Simplement, la difficulté, c'est plutôt de le prendre la main dans le sac si jamais il fait quelque chose. Il est plus protégé que le ministre quelconque qui puisse apporter du canard enchaîné. Et s'il y avait un acte véritablement très choquant accompli par un président de la République, à mon avis, ceci pourrait se passer aussi. Un autre exemple de responsabilité politique, c'est ce qui est arrivé à Chaban-Delmas. Chaban-Delmas, dans son histoire d'avoir fiscal, il avait appliqué la loi. Bon. Et ça a été sa mort politique. Donc je pense qu'il y a une responsabilité qui subsiste, mais qui se transforme, qui n'a plus une signification juridiquement définissable, mais qui existe quand même, et qui est au fond la seule chose qui reste avec l'élection présidentielle, étant entendu les limites que constitue le mécanisme d'élection si on interprète ça en termes juridiques de responsabilité.
Guy ? Je vais prolonger tout de suite ce que dit Jean-Marie. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec le fait que la situation de fait manque. Je suis convaincu que plus aucun président, sauf exception, et encore, même pas l'exception, ne convoque un référendum. Donc, je ne vois pas pourquoi Le référendum comme mise en œuvre de la responsabilité présidentielle me paraît exclu. Convoquerait-il un référendum qui ne serait pas forcé de mettre sa tête sur le bio? La synchronisation fait que les hypothèses autres disparaissent. La seule hypothèse en vérité qui subsiste, c'est la dissolution. Parce que, effectivement, il peut toujours se produire une crise, qui n'est pas d'ailleurs nécessairement une crise institutionnelle. Après tout, la dissolution de 68, il n'y a pas de problème entre le gouvernement et sa majorité. Alors, il peut toujours se produire une crise qui provoque une dissolution, qui provoque la désynchronisation, et donc, la question de savoir ce que serait l'attitude du président de la République dans cette hypothèse-là. Elle est là, cette hypothèse. On ne sait pas ce que ferait un président qui serait désavoué, pour vivre avec. Reste que, pour répondre à la question que tu posais, Carlos, pour moi, la réponse ne fait guère de doute. Si jamais j'étais tenté par la course en montagne, je crois que je préférerais m'attaquer au Mont Blanc qu'à l'Himalaya. Là, je pense qu'il vaut mieux faire porter la responsabilité sur les ministres plutôt que sur le président de la République. L'argument dirimant, il a déjà été donné par Armel, donc je n'y reviens pas. Je voudrais juste plonger d'un mot ce que disait à l'instant. Donc, je me tournerai plutôt évidemment du côté de la responsabilité politique des ministres. J'ai déjà eu l'occasion d'écrire, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais, à l'instant, Jean-Marie disait la responsabilité politique n'est pas juridiquement définissable. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais peut-être vous surprendre, mais à mes yeux, je trouve qu'il y a une bonne définition de la responsabilité politique et qu'elle est donnée par l'article 68 de la Constitution. Et que la responsabilité politique, enfin la responsabilité mise à la charge du président de la République par l'article 68 est au mot près transposable au membre du gouvernement. Lorsqu'on dit manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Je trouve que c'est une très raisonnable définition de la responsabilité politique des ministres.
Tout à fait. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une définition au sens du code pénal.
Non, mais
c'est ça que je veux dire.
Nous sommes tout à fait d'accord. Mais pensez-moi que c'est une définition
tout à, fait.
À contenu. Enfin,
c'est une définition que
juridiquement, je crois n'être pas insatisfaisant. Je crois que matériellement, elle correspond exactement à l'objet. Et que donc la seule question qui se pose à partir de là est de savoir quand et comment la vérification de ce qu'il y a ou non manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec ses fonctions s'opère. Mais sur le principe, je ne trouve pas ça si difficile, pour dire les choses simplement. Après, c'est une question d'ingénierie. Mais dans tous les exemples que nous avons cités, y compris celui de Lelon, en fait ce que disait Lelon était parfaitement vrai, mais c'est vrai que c'était pour le moins inopportun. D'ailleurs, la profession a disparu au grand soulagement de ceux qui l'exerçaient, qui ont été les premiers à faire quelque chose de moins idiot que de simplement trier du poids. L'exemple de Lelon, mais enfin, tous les exemples qui ont été donnés ici, et d'autres qui n'ont pas été, peuvent parfaitement entrer dans cette définition-là. À tort ou à raison, on considère que la situation dans laquelle X s'est mise est manifestement incompatible avec la poursuite de sa mission. Bon. Alors jusqu'à présent, c'est le président de la République qui décide de le révoquer, parfois stimulé en ce sens par le Premier ministre. Peut-être, peut-on, doit-on, et comme vous le savez, c'est ce que je souhaite, imaginer que le Parlement aussi ait pas seulement la possibilité, dans certains cas, le devoir de se prononcer sur le sujet. Mais ça, bon, on rejoint là ce que j'ai eu l'occasion d'écrire, donc je ne vais pas me refaire à l'oral ce que j'ai déjà fait à l'écrit, vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais bon, il y avait un petit peu affiché, ma réponse ne fait pas doute. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'était sur le fait que, oui, je trouve qu'il existe déjà dans la Constitution une définition juridique qui n'est pas insatisfaisante de ce que signifie la responsabilité politique des ministres.
Merci beaucoup Guy, puisque tu fais quand même la transition vers le troisième et dernier point, mais avant de l'aborder, de rentrer dans le vif du sujet, j'imagine que tes préconisations, tu te refuses à en parler toi-même, ce que je comprends, mais nous en discuterons vraisemblablement. Denis souhaitait intervenir.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Guy, avec peut-être une petite réserve que la procédure est tout de même un aspect important et que je ne suis pas certain qu'on soit arrivé à la bonne... solution. Je trouve effectivement que la définition du nouvel article 68 est très bonne. C'est vraiment exactement comme ça qu'il faut dire les choses. ça fait quand même un retrait de la marée significatif par rapport à la responsabilité parlementaire classique. C'est-à-dire qu'au fond, l'inopportunité politique était sanctionnée par la responsabilité politique parlementaire classique. On prenait une mesure, j'en sais rien, mais on dévaluait, et c'était une erreur économique de dévaluer, et où au XVIIIe siècle, on perdait une bataille, même si on n'était pas un traître, etc. La responsabilité politique pouvait s'étendre à ce type de divergence de vue politique entre une majorité et un gouvernement, avec le type article 68, dont je suis d'accord qu'il est à la fois très bien formulé et qu'il est un bon reflet de ce qu'on fait aujourd'hui avec la responsabilité, ça fait quand même une... voilà.
Ça va de pair avec une discussion qui continue à considérer le président de la République comme irresponsable. Donc il est clair que la responsabilité politique appliquée au président de la République ne peut pas avoir le même périmètre.
Oui, tu vois, enfin,
que la même formulation.
Oui, mais
si tu étends, tu le sais, que si en gardant la même formulation, tu l'étends au ministre, tu la transposes au ministre, tu l'étends instantanément. Parce que les ministres ne bénéficient pas de l'irresponsabilité foncière, en quelque sorte, dont bénéficie le président de la République.
Sauf peut-être, me semble-t-il, je réfléchis en vous écoutant, aux hypothèses que tu visais toi-même tout à l'heure, l'imputation fictive, c'est le ministre n'y est strictement pour rien, mais c'est quand même lui qui va prendre.
Ah mais ça n'a aucune importance. C'est un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de sa charge que d'avoir mal choisi un collaborateur, que de n'avoir pas suffisamment surveillé le directeur général de l'administration pénitentiaire, que de n'avoir pas fait gaffe à la manière dont ses enfants agissent. On est désolé, c'est peut-être pas de sa faute, mais il doit gicler.
D'accord. Oui, mais dans le cas de la responsabilité purement fusible, Lord Carrington qui démissionne après le bombardement du Belgrado, je ne sais pas.
Belgrado, c'est ça.
Et on ne peut pas dire qu'il y a le mauvais usage d'un pouvoir légal, comme dirait Constant, et on peut encore moins dire que ça rentre dans la définition de l'article 68.
Et ça, c'est un limoge. Enfin bon, je pense que j'imagine qu'on va y venir, mais oui, ça peut entrer dans le cadre de l'article 68.
Tu as encore la notion de manquement, en un sens très très large.
Alors, il est coupable d'être le ministre de la Défense.
Mais bien sûr, il y a un problème dans son ministère, il est coupable d'être le ministre. Il n'y a pas de doute.
Denis, tu veux je voudrais terminer sur ce point-là et puis dire autre chose si je peux. Il y a quand même un truc important, c'est que cet article 68 exprime admirablement le recentrage de l'idée de responsabilité dans le domaine constitutionnel sur quelque chose comme un jugement moral qui repose sur quelque chose comme une vérité morale. Et c'est là que le commentaire de Lucien Jaume sur Constant m'a beaucoup frappé, c'est-à-dire au fond... Moi, je n'étais pas rendu compte du point auquel, pour Constant, il y a des sortes de vérités substantielles, on peut y accéder, et la responsabilité sert à les sanctionner. Est-ce qu'une dévaluation a été réussie ou non? Est-ce qu'une politique économique est satisfaisante ou pas? On est dans le flou, on est dans l'incertain total, il n'est pas certain que la droite fasse autrement que la gauche. La responsabilité politique s'est retirée de ce genre de problème parce que l'incertitude politique et l'absence de vérité en politique s'y est tendue, au contraire. Donc au fond, voilà. Tandis qu'au contraire, la redéfinition par l'article 68, ça donne à penser que pour l'opinion, il y a quand même des trucs qui sont mal. Et quand ces trucs sont mal, ça n'est pas de la responsabilité pénale, c'est de la moralité constitutionnelle. C'est l'exemple que tu donnes dans ton livre du président qui aurait été tortionnaire en Algérie, des trucs vraiment que personne ne peut approuver. Il y a la question de à qui imputer, et il y a deux en qui et pourquoi. Et la question du devant qui n'est pas complètement négligeable, et je voudrais soulever, c'est plus une question que je pose, parce que peut-être que je suis ignorant ou que je mets complètement à côté, mais je trouve que j'ai une grande admiration pour René Capitan, mais je trouve que la thèse des députés comme ministre négatif du président et du corps d'inspection, c'est toujours religieux, oui, ça je comprends vraiment pas. Il y a un côté Alain derrière tout ça, le député contre les pouvoirs, le citoyen contre les pouvoirs.
Et le côté cinquième technocratique aussi.
Peut-être.
Il fait sur les corps d'inspection.
Oui, c'est un côté là.
Important.
C'est un côté. Ça, c'est.
L'inspection générale de la République.
Aujourd'hui, tout le monde s'en fout des corps d'inspection.
Il cherchait à boucher son embarras de défendre la logique gaulienne.
Voilà, c'est ça. C'est cet oxymore qu'on appelle être gaulliste de gauche. Et. Et deuxièmement, je
veux. Gaulliste de droite, c'est ça.
Gaulliste de droite, c'est pas fait. C'est ça. Ça devient dur aussi. L'autre chose, c'est que je voudrais pas refaire le coup, qu'on fait toujours de l'ingouvernabilité, mais un tout petit peu quand même. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de responsabilité, c'est aussi en raison des contraintes qui pèsent sur la décision politique. Et je trouve quand même que s'il n'y a plus de responsabilité, c'est aussi parce qu'il n'y a plus de confiance. Un président qui arrive au pouvoir au début désormais de son quinquennat, à mon avis, il n'y a quasiment pas de capital de confiance, notamment sur les mesures. Sur l'individu, il y en a peut-être un peu, mais sur les mesures. Le lendemain, il est élu sur un certain programme électoral donné. Le lendemain, il adopte une mesure en question. Il peut avoir des millions de gens dans la rue. L'idée qu'il a été élu la veille, à mon avis, n'est pas une protection. Il est de moins en moins chaud que le gouvernement représentatif a évolué. Ce que signifie gouvernement représentatif a évolué. Et je trouve que désormais, c'est pour ça qu'on gouverne avec les sondages, puisque notre actuel président est extraordinairement attentif aux mouvements d'opinion les plus minuscules, c'est que c'est un...
C'est plus attentif aux minuscules qu'aux gros. C'est son problème.
Le visage de Saint-Mitterrand, vous le dites. Et je trouve que le gouvernement représentatif a pas mal évolué. D'autre part, il y a quand même quelque chose duquel on n'est pas sorti, c'est qu'on est dans un gouvernement d'opinion. Et ça, des premiers théoriciens de la responsabilité politique jusqu'à vendredi dernier, ça reste vrai. Le vendredi prochain, je ne sais pas. Mais ça reste vrai. On est dans des gouvernements selon l'opinion, et au fond, ça, la manière dont on sonde au sens large du terme, dont on questionne l'opinion a changé, la manière dont on la configure a changé, mais ce fait fondamental, à mon avis, n'a pas changé. Quant au référendum, c'est quand même pas complètement hasard qu'on s'en serve pas, parce que quand on s'en sert, assez généralement, on a tendance à en négliger les conclusions. Le référendum européen dans différents pays le montre. Donc au fond, c'est un phénomène aussi assez intéressant, le référendum. Donc au fond, le gouvernement, ce que veut dire gouvernement représentatif a profondément évolué, et je pense quand même que il n'y a quasiment pas de capital de confiance. Donc l'idée d'investiture a disparu de la vie parlementaire. On n'investit plus, il n'y a plus de confiance initiale devant un Parlement. Je pousse un petit peu, j'exagère un petit peu le trait, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de confiance initiale donnée par l'électorat et donnée par l'opinion. Et ça, à mon avis, c'est une des illusions de la première moitié de la période Sarkozy, c'est d'être arrivé à l'Élysée en se disant « je suis porteur d'un truc, les Français veulent que je fasse ça, ben tiens, je vais le faire ». Et je ne trouve pas tant que ça, les Français peuvent... Il y a une personnalisation de la compétition politique qui fait que les gens s'intéressent sur la question de savoir si ça va être M. Sarkozy ou Mme Royal, ou M. Hollande ou M. Sarkozy. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont chargés comme une pile électrique d'un capital en termes de mesures à accomplir quand ils arrivent au pouvoir? Je crois vraiment pas. Enfin, je pense que ça a pas mal, là encore, ça a pas mal régressif.
Est-ce qu'on aurait dit ça en 2007 ou 2008? Je suis pas sûr.
Là, je ne parle pas du tout de cette expression. Prénaud avait déjà écrit, à mon avis, des choses définitives sur l'équivoque du programme, des personnes, des programmes. On ne peut pas refaire toute la démonstration sur l'absence de rapport subjectif entre l'électeur et l'élu. Il n'y a pas un contrat qui est passé. Et ça, bien avant Sarkozy, des mesures annoncées dans un programme. Je commençais par le grand Spulen, le grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale que Mitterrand avait promis. Il n'a pas compris pourquoi il y avait 3 millions de personnes dans la rue. C'est dans mon programme. Ah oui, mais son programme, tout le monde s'en foutait. C'est comme ça de pratiquement tous les programmes. Donc,
ça sert à gagner l'élection.
Voilà, ça sert à gagner l'élection. C'est une indication sur ce qu'on a l'intention de faire. Mais...
Je pense que ce que dit Denis Barlanger est très, très juste. Mais je crois que c'est un problème de fond. C'est-à-dire qu'il y a... une discordance entre le sentiment que le gouvernement devrait en gros faire ce que souhaite l'opinion et l'absence totale de relais en réalité de l'opinion auprès du gouvernement. Car ce qu'on a entendu, en particulier au début, on l'entend moins depuis quelques temps, ce qu'on a entendu en particulier au début, c'est que le gouvernement disait j'ai la majorité à l'Assemblée nationale, donc je suis le maître de tout, et fermez vos gueules. Et sur des... Alors, dans ce... quand il pouvait, il disait « c'est dans mon programme », et quand c'était pas dans son programme, il disait « j'ai la majorité à l'Assemblée nationale ». Et à partir de là, toute discussion, tout dialogue, alors je ne vais pas faire un topo sur le dialogue social, mais,
bon, si, si,
mais toute discussion, toute... non mais je veux dire, c'est un peu, maintenant c'est un peu du passé, toute discussion, toute concertation, toute prise en compte de l'opinion des gens qui connaissent les problèmes, par exemple dans l'université, pour prendre un exemple, bon, est radicalement rejetée au prix de manœuvres d'appareil, d'accord, entre Mme Pécresse et M. Julliard, enfin, et, bon, et donc, il y a, je crois, un malaise très très profond lié au fait qu'on oppose aux gens, quand ils ne sont pas d'accord, le fait que vous avez voté pour ça, donc pour 5 ans, on fait ce qu'on veut. Et là, il y a un problème qui est un problème psychologique, mais qui est aussi un problème institutionnel. C'est-à-dire que concrètement, comment peut-on faire, exactement, pourquoi ne peut-on pas faire, changer le gouvernement, le président de la République d'opinion, même sur des sujets mineurs, et en tout cas faire en sorte qu'il y ait une action de l'opinion. Parce qu'il y a une époque où on disait qu'on gouvernait avec les sondages, mais on ne gouverne plus avec les sondages. On gouverne avec les sondages d'intention de vote. C'est-à-dire que tant qu'on a des intentions de vote favorables, c'est-à-dire jusqu'à un an avant l'élection présidentielle, tout va bien. Bon, ensuite, on commence à se poser des questions, très tardivement d'ailleurs. Non. Mais l'idée qu'il puisse y avoir, de façon légitime, une influence de l'opinion publique sur les gouvernants est une idée qui a disparu. Voter nous font reste. Et ça, c'est un problème très large. C'est un problème qui est plus large que des questions constitutionnelles, mais qui a aussi une incidence.
C'est pas entièrement vrai. Je pense que les récents discours de M. Guéant donnent à penser que l'opinion d'une certaine frange électorale peut avoir un impact sur les projets.
C'est même pas l'opinion. C'est même pas l'opinion d'une certaine frange électorale. C'est ce que on veut qu'une certaine frange électorale fasse pour pouvoir la satisfaire. C'est-à-dire, en même temps, on crée. Parce qu'on ne n'écoute pas forcément ce que les gens souhaitent, mais sur certains points, on va créer artificiellement des discours pour pouvoir les satisfaire, surtout quand ils sont situés à l'extrême droite de l'échiquier politique, d'ailleurs.
Brièvement, si possible, parce que j'aimerais bien qu'on garde un peu de temps pour parler d'ingénierie sur ce qui serait possible d'imaginer pour réactiver la responsabilité.
J'ai juste l'impression que on a un peu glissé sur un autre problème qui est effectivement la question de la représentation. Moi, il me semble que cette question du gouvernement d'opinion, c'est que, alors c'est peut-être propre à la France, il faudrait faire un peu de comparatisme, mais le fait est qu'effectivement, les gouvernants prennent des décisions sans avoir de médiation entre ce qu'on peut appeler la société civile et le pouvoir. Ce que tu as évoqué sur l'université, c'est évident. Tous les gens qui connaissaient l'université savaient que les réformes qui étaient prises allaient provoquer des problèmes sérieux parce qu'il y avait une grosse résistance, tout simplement des principaux concernés. Et ce qu'on a, nous, on a vécu à l'université, j'imagine évidemment qu'on peut le transposer à d'autres secteurs de la société. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment un problème de responsabilité, parce que la responsabilité, il me semble qu'elle surgit quand il y a un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de représentation plus ou moins fidèle qui permet d'avoir un gouvernement qui est plus consensuel, parce que on a en quelque sorte les gouvernants ont un peu le pouls de la société. Moi, ce qui me paraît frappant en France, c'est un problème spécifique, c'est effectivement l'écart, la distance très grande qu'il y a entre les décisions qui sont prises au sommet et la manière dont les gens ressentent les problèmes, et en tout cas pas ressentent les problèmes, la manière dont les gens voient un problème qui est complètement distordu lorsqu'il arrive au sommet du pouvoir. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment un problème de responsabilité. Le vrai problème de responsabilité, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une opposition. Et je pense qu'il faut arriver...
Si tu permets, je suis d'accord, bien sûr, mais ça n'est pas sans lien.
D'accord.
Parce que si il y avait une responsabilité, certains messages pourraient arriver à passer. Et le fait que les messages ne passent d'accord. pas est lié aussi.
Absolument. Et d'où alors la question qu'on va enfin pouvoir aborder, de savoir sur le plan de l'ingénierie constitutionnelle, quels moyens seraient imaginables, le cas échéant, pour réinjecter de la responsabilité politique, et en particulier, le cas échéant, pour parvenir, au moins dans certains cas, à débloquer le verrou de la discipline de vote, qui est quand même un obstacle absolument majeur. Alors, j'imaginais faire un petit listing rapide des diverses mesures imaginables telles qu'on
vous pouvez les lire dans les documents qui vous avaient été présentés. Je ne vais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps. Mais très rapidement quand même, bon, il y a les procédures de la responsabilité collective du gouvernement sur lesquelles on peut imaginer diverses choses, par exemple déverrouiller le 49.3 ou des choses de ce genre. Mais peut-être, me semble-t-il, serons-nous d'accord pour dire que de toute façon ces procédures collectives ont des chances infimes de jouer, que c'est peut-être pas tellement là qu'on serait susceptible de trouver des solutions miracles. Il y a la responsabilité individuelle des ministres. Si elle est prévue constitutionnellement, il me semble qu'il est quand même nettement moins compliqué de contraindre un ministre à démissionner que d'utiliser l'arme nucléaire de la responsabilité de la motion de censure envers tout le gouvernement. Il y aurait la possibilité, c'est une idée qui a été signalée dans l'article de Marie-Claire Pontoreau, du droit de l'opposition à organiser un débat télévisuel contradictoire. Une idée, pourquoi pas, enfin, peut-être plus facile à mettre en œuvre vis-à-vis du Premier ministre que du Président. Du droit de l'opposition, peut-être et surtout, à provoquer un débat de politique générale lorsque on estime qu'on est dans une
situation là.
Oui, mais avec, enfin, avec vote, mise en jeu éventuelle de la responsabilité.
Là, ça s'appelle la motion de censure. Hein.
Oui, alors avec toutes les restrictions qui vont avec la motion de censure. Tout le verrouillage qui va avec la...
Il est là, quand il veut.
La motion de censure. Et puis, dans le cas de la motion de censure, l'opposition déclare à l'avance qu'elle va vouloir, va essayer de faire jouer la responsabilité, comme elle sait qu'elle a peu de chance de toute façon, si elle en tue peu. Si on laisse planer le doute sur la question est-ce que la responsabilité va être mise en jeu ou pas, il me semble que ça peut peut-être être plus ouvert. Enfin, on peut en discuter. Il y avait l'hypothèse de Guy, alors, qui proposait une rationalisation de la responsabilité pour obliger le Parlement à exercer sa fonction de contrôle. Si j'ai bien compris, sur plainte, entre guillemets, alors soit pénale, soit politique, de la part des citoyens, puis filtrage par une commission de très haut magistrat, trois plus hauts magistrats de la République, qui jouerait comme aiguilleur, ça c'est un relève du pénalisme politique, et ensuite, dans le cadre d'un problème politique, une commission d'enquête saisie automatiquement à l'Assemblée nationale qui proposerait d'éventuelles sanctions. Donc ça, c'est une formule possible. Je serais tenté, alors je sors un peu de mes fonctions de pur animateur, mais je n'ai pas du tout vraiment réfléchi à ces questions dans ces termes. Quid d'une autre idée qui serait l'occasion de donner à l'opposition le pouvoir de menacer éventuellement, puis de provoquer le cas échéant, un vote de censure, mais un vote de censure populaire sur le gouvernement. Très simplement, on a un problème qui est à l'heure actuelle de la discipline de vote qui fait que les parlementaires indépendants, il n'y en a plus. En revanche, il reste des électeurs indépendants, des électeurs flottants, qui sont susceptibles de faire la décision et de recréer ce fameux suspense que je ne cesse de regretter pour ma part, que tu en aies fait toi ton deuil. Et est-ce qu'une telle formule serait imaginable en l'aménageant pour que la menace joue surtout de manière dissuasive, c'est-à-dire comme ultime recours? Si le Parlement lui-même refusait ou s'obstinait à refuser de faire jouer la responsabilité, éventuellement dans des cas de figure, enfin avec commission d'enquête, tu en parlais, il y a toujours la possibilité de dire attention, si vous persister dans l'immobilisme, alors on serait susceptible de provoquer un vote directement des Français et ça pourrait peut-être avoir une influence. Je ne sais pas. En tout cas, quel est...
J'imagine qu'on ne pourrait pas proposer un vote direct des Français. On pourrait, comme pour le référendum d'initiative partagée, proposer à un nombre suffisant de Français de partager l'initiative pour qu'il y ait un vote. Tu ne peux pas permettre à l'opposition, dès l'instant le gouvernement a une mesure impopulaire, de provoquer un vote sur la survie du gouvernement.
Après, il peut y avoir toutes sortes d'aménagements qui consistent à dire, voilà, on demande un minimum, enfin, l'opposition doit être unanime d'abord, il faut à ce moment-là s'entendre sur ce qu'on entend par opposition, enfin, on peut avoir toute une série de mesures de type parlementarisme rationalisé qui fassent que ce ne soit pas provoqué tous les jours, ça c'est clair, et que ça joue surtout à l'état de menace et que ça passe éventuellement par le processus de commission d'enquête, mais comme ultime recours, il me semble que ça ne semble pas nécessairement choquant de donner à l'opposition le pouvoir de provoquer cela, sachant qu'elle serait sans doute quand même assez fortement incitée à ne pas en abuser, parce que ça risque de lui coûter cher aussi si elle échoue.
Est-ce que ce genre d'instrument...
Celui qui va rester l'opposition, je vois pas où il risque.
Est-ce que ce genre d'instruments d'une certaine lourdeur tout de même ne sont pas trop, trop lourds à même de consentement?
Tu parles
de ta proposition, c'est quand même pas rien de provoquer un.
Ah oui, je suis d'accord.
En gros, c'est l'idée du recall. Là, pour le coup, si.
Sauf c'est l'opposition qui provoque.
Non, mais s'il y a. L'opposition qui provoque. S'il y a une procédure de recall, à ce moment-là, à mon sens, ça ne peut s'appliquer que pour le président de la République. Et ça a, le cas échéant, une vraie signification. Et je suis tout à fait prêt à en discuter. En revanche, une procédure de recall sur le gouvernement, ça me paraît quand même. Ça me paraîtrait une régression grave. Grave. Parce que c'est véritablement. La condamnation a priori de tout courage politique, c'est l'institutionnalisation définitive du gouvernement de l'opinion et du gouvernement de l'opinion dans ses réactions les plus épidermiques. Bon, là-dessus, moi, je suis fondamentalement très réservé.
Est-ce que tu supposes que l'opposition ferait ça à répétition pour tout et n'importe quoi?
Mais on sait très bien que c'est de la vocation de tout parlementaire d'utiliser un pouvoir non pas en vue de ce pourquoi il a été conçu, mais en vue de tout ce qui peut l'arranger. Si l'opposition peut faire censurer le gouvernement, pourquoi c'est un exemple idiot, mais en fait, qui est assez illustratif, pourquoi les socialistes, car ils étaient à l'époque dans l'opposition, après avoir négligé la réforme, ont-ils, dès 1974, utilisé la saisine du Conseil constitutionnel? Était-ce par souci de rigueur juridique? Pas un instant. Ce n'est pas ce qu'il disait. Si on arrive à faire quelque chose par le Conseil constitutionnel, c'est un coup sur le nez du gouvernement, on est content. Bon, s'ils avaient une procédure qui leur permette de mettre en cause l'avis du gouvernement devant les Français eux-mêmes, mais ils l'utiliseraient toutes les semaines. Et ils n'auraient aucune raison de ne pas le faire, puisqu'ils n'auraient pas de sanction. La seule sanction, c'est de rester en opposition, ils le sont déjà. Donc, enfin bon. Donc, ceci pour dire, tu l'auras compris, je ne suis pas
totalement
favorable à cette
question-là.
Non, je voudrais. Je l'ai invité, donc je vais le faire rapidement, mais défendre un peu l'idée que j'avais. Elle part d'une observation simple. Beaucoup de choses sont améliorables dans la Ve République, et nous en sommes tous ici convaincus, et avant tout, c'est écrit sur tel ou tel aspect de celle-ci, mais la rationalisation du parlementarisme, techniquement, a bien joué. A bien fonctionné. On s'est dit, on va, par des mécanismes de rationalisation, forcer les institutions, et en particulier l'institution parlementaire, non pas à renoncer à ses pouvoirs, mais à les exercer dans des conditions qui, tendanciellement, favoriseront des résultats déterminés. Bien. Cette rationalisation, on l'a appliquée sur. Enfin, on l'a fait, ma thèse, c'est qu'on l'a fait aux trois quarts. Si on prend les deux fonctions éminentes et traditionnelles, législation et contrôle, on l'a fait sur la totalité de la législation et sur la moitié du contrôle, c'est-à-dire le contrôle collectif. Mais en revanche, rien sur le dernier quart, qui est le contrôle individuel. Un mot sur le contrôle collectif, tu disais à l'instant sur les procédures collectives, ça marche, à rien à ajouter. Moi, j'avoue un petit regret, tu l'avais évoqué au moment de la commission Balladur, mais ça n'est pas passé, j'aurais souhaité qu'on introduise dans la Constitution française la motion de censure consultative. Avec une idée très simple, qui était de dire, ça n'a pas de raison de servir, sauf quand la majorité décide de changer le Premier ministre que le président de la République s'entête à lui imposer. C'est clair, Dominique de Villepin eût été remplacé par Nicolas Sarkozy quelque part vers 2006, et ça aurait été assez bien. Bon, mais enfin, bref.
C'est contradictoire totalement avec le présidentialisme, avec l'idée que le président verrouille le choix du Premier ministre dans le cadre des rapports de force.
Nous sommes d'accord, mais moi je ne suis pas absolument fanat du fait que le président de la République verrouille tout. Hein.
Je veux dire, c'était scellé le destin impossible d'une telle introduction, car au fond.
Non, mais je ne me faisais guère d'illusions sur la disponibilité d'un chef de l'État, quel qu'il soit, à accepter cette idée-là. Mais pour autant, je trouvais qu'elle pouvait mériter d'être.
Ça avait été discuté, c'est clairement, puisque c'était dans le projet qui a donné le 49-3, notamment, c'était dans le projet du gouvernement Gaïa,
bien sûr,
qui s'était succédé. Et De Gaulle l'a expressément écarté au motif que c'est lui qui choisit le Premier ministre. Il y a une logique institutionnelle intrinsèque. Si vous changez ça, c'est un peu comme si on donnait au Conseil constitutionnel le droit, comme les cours étrangères, de trancher les litiges entre organes constitutionnels. Le président n'est plus le gardien de la Constitution. Vous retournez complètement, oui, comme une chaussette, la logique fondamentale de la Constitution.
Non, à ce détail près que le président conserve son droit de dissolution. Ça ne jouerait que dans des hypothèses extrêmes. Mais bon, je mentionnais ça pour mémoire, parce qu'une fois encore, tout cela, ce sont des arguments forts que vous évoquez, mais je trouve que cette discussion, passé le fait que De Gaulle l'avait écarté en 1958, pourrait mériter d'être reprise 60 ans plus tard. Mais peu importe. Sur la responsabilité individuelle, en vérité, et c'est pour ça que je prends la parole juste d'un mot pour compléter, dans mon papier, j'avais évoqué les cas dans lesquels il faut forcer le Parlement à mettre en cause la responsabilité individuelle. La raison pour laquelle je ne crois pas aux procédures volontaires est assez simple. Si ce sont des procédures volontaires, à la diligence de l'opposition. En vérité, ça tournera à du opposition-majorité avec le résultat acquis d'avance. L'opposition votera pour, la majorité votera contre, on n'en parle plus. Si c'est à l'initiative de la majorité ne le fera jamais, pour cause de solidarité gouvernementale. Éventuellement, au-delà de la solidarité gouvernementale, pour cause de solidarité politique. Mais lorsque la question s'est posée la mise en cause de Laurent Fabius, là encore, je ne trahis pas de secret, bon, vous savez que j'étais à l'époque auprès de Michel Rocard Matignon, on a fait des pieds et des mains pour essayer de le convaincre d'accepter une commission d'enquête parlementaire, en lui expliquant sur tous les tons que c'était son intérêt. Il le refusait, il ne voulait pas en entendre parler. Les parlementaires étaient très nombreux, majorité comme opposition, a considéré que oui, ce serait évidemment la meilleure solution, que c'était d'ailleurs ce qui s'était fait à l'étranger, et que les ministres s'en étaient pas mal tirés. Mais à partir du moment où le premier intéressé disait qu'il ne voulait pas en entendre parler, les effets de solidarité à l'intérieur de la majorité, mais même au-delà de la majorité dans l'opposition, les députés de l'opposition qui détestaient Laurent Fabius disaient par ailleurs, mais ça n'est pas une manière de s'en prendre à la politique. Et, bon. Et donc, finalement, on a abouti à ce que l'on sait. Donc l'idée est très simple, le même phénomène se reproduisant inévitablement parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, on ne peut amener le Parlement à exercer véritablement sa mission que si on l'y oblige. S'il n'y avait pas les procédures contraignantes en matière législative, jamais le Parlement n'adopterait de lois impopulaires. Bon, eh bien, en matière de responsabilité personnelle des ministres, il me semble que c'est exactement la même logique qui est à l'œuvre. Alors, bon, moi j'ai proposé des modalités pour mettre en œuvre ce principe, mais à la limite, évidemment, par définition, les modalités sont secondaires. Je crois que c'est le principe qui est tout à fait essentiel. Si l'on ne force pas le Parlement, selon des modalités à déterminer, à s'interroger sur cette responsabilité, jamais cette responsabilité ne ressuscitera. Ça me paraît aussi simple que cela. Ou alors, ça dépendra soit de la bénévolence d'un président de la République, je serais presque tenté de parler là aussi d'oxymore, soit d'une révélation spontanée des parlementaires à laquelle je ne peux pas croire un instant. Donc, il me semble qu'il n'y a de voie que par la contrainte de la rationalisation. C'est donc désolant, mais c'est ainsi.
L'élément moteur dans ton système, c'est finalement la plainte d'un citoyen.
Alors, moi je suis parti de l'hypothèse, sans doute traumatisée par l'affaire du sang contaminé, mais par d'autres aussi, je suis parti de l'hypothèse que ça n'est pas le plus mauvais point de départ, mais ça peut parfaitement coexister avec une situation de mise en cause spontanée. L'idée étant double. Premièrement, mettre en œuvre des mécanismes clairs, y compris éventuellement provoqués, contraints ou spontanés, et qui du coup, dont la mise en mouvement ne soit pas une mise en cause insupportable, ni pour celui qui est mis en cause, ni pour ceux qui mettent en cause. Et le deuxièmement, au passage, estourbir discrètement, régler son compte à cette cochonnerie qu'est la Cour de justice de la République, ce qui, à mon avis, est un dividende secondaire, mais toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre. Bon, donc, ce peut être, je pense que si c'est provoqué par une plainte d'un citoyen, c'est l'une des possibilités, ce serait dans les faits vraisemblablement celle qui, au moins au début, pourrait opérer, souvent, mais ça doit coexister avec une possibilité spontanée. Alors là, pour le coup, à la demande de n'importe quel parlementaire, et je pense que si le pli était pris, ça pourrait même être mis en œuvre par les parlementaires, y compris la majorité de l'opposition.
Alors, moi, j'aurais deux questions dans le cadre de ce que tu proposes. Alors, la première, c'est qu'on est bien d'accord que c'est. Il y a systématiquement un filtrage par les hauts magistrats, qui donc vont avoir le pouvoir de décision objectif, quant à la responsabilité politique, de lancer la procédure ou de ne pas la lancer. C'est-à-dire,
oui, mais non, parce que dans mon esprit, c'est une commission d'aiguillage. Son seul rôle, elle n'a pas le pouvoir d'enterrer quoi que ce soit. Son rôle est de dire c'est pénal, ou c'est politique, ou éventuellement c'est les deux.
Donc elle n'a pas de pouvoir de filtrage.
Non, pas de filtrage, d'aiguillage. C'est politique, ou c'est pénal, ou c'est les deux.
D'accord. Et alors, du coup, s'il y a des milliers de plaintes plus ou moins farfelues, qui est-ce qui les...
C'est toujours la même commission. Toujours la même commission.
Mais elle aiguille, puisqu'elle n'a pas la liberté d'enterrer.
Bien sûr, elle n'a pas la liberté d'enterrer. Une fois qu'elle aura dit une fois pour M. Philippe Leroux, ministre des Affaires étrangères, que les faits qu'on lui reproche relève de la responsabilité de la responsabilité politique. Bon, s'il y a 40 000 plaintes concernant sur les mêmes faits, on ne va pas y revenir. Ou de la responsabilité pénale, même chose.
Et là, et j'avais une deuxième question. Je comprends bien comment on oblige le Parlement à se prononcer. Et ça me semble très intéressant. Mais rien n'empêche, me semble-t-il, dans ce système, la majorité de conclure, finalement, non.
Mais absolument, mais à ce moment-là, c'est la majorité elle-même qui dit, voilà, à partir du moment où le Parlement est obligé de se prononcer, il y a, premièrement, un certain nombre de peines possibles, qui peuvent être graduées, et ce n'est pas toujours politique, ça n'est pas difficile, et puis deuxièmement, fort heureusement, le quitus. Ce ne sera pas du tout pareil politiquement, que le quitus soit accordé à une large majorité dépassant évidemment tout l'équivage, ou au contraire à une majorité strictement automatique de la majorité du moment. Si on reprend, parce qu'il est assez topique, l'exemple du sang contaminé, je suis convaincu que s'il y avait eu la procédure que je décris, une vraie commission d'enquête avec des travaux publics et tout ça, au bout du compte, Laurent Fabius aurait obtenu un quitus à une majorité dépassant de très loin, la majorité de l'époque. Peut-être même à la quasi-unanimité. Je pense d'ailleurs que, vraisemblablement, le malheureux Edmond Hervé aurait peut-être aussi bénéficié d'un quitus. Et ensuite, bon, le système politique dit écoutez, bon, on estime que compte tenu de. Mais en revanche, ce n'est pas du tout pareil. De mettre en cause un ministre pour la gestion de sa fonction gouvernementale, type justement le sang contaminé, ou de l'incriminer pour le fait qu'il aurait pu avoir, il aurait pu toucher de l'argent ou faire du favoritisme, ça c'est une infraction strictement pénale.
Oui, mais dans le cas de délit, enfin de délit de grief complexe, si par exemple dans l'affaire du sang, il avait eu aussi des aspects financiers au profit d'un ou plusieurs ministres à ce moment-là, il y a aussi bien lieu parallèlement à saisir le juge pénal que...
L'une ou l'autre, ou les deux.
Ou les deux.
Bien sûr, les deux. Et il va de soi que... Oui. Prenons cette hypothèse-là. Alors là, pour le coup, s'il y avait eu simplement des soupçons d'intérêt financier, instantanément, alors là, la proposition se retourne. L'unanimité du Parlement aurait trouvé ça insupportable. D'autant plus qu'il faut bien avoir en tête une particularité qui est de cette responsabilité politique, c'est que on a toujours implicitement dans un coin de la cervelle la situation du ministre en exercice. Et les problèmes les plus délicats se posent très souvent pour d'anciens ministres. Pour d'anciens ministres. Et des gens dont, me semble-t-il, il n'y a aucune raison ni de les revoir un jour siéger au gouvernement si jamais ils ont fauté, ni de les voir ad vitam condamnés à l'opprobre si jamais... Non, en vérité, rien fait de...
C'est pour des bonnes raisons qu'on a inventé un mauvais système.
Non, mais il y avait de bonnes raisons à inventer le système, mais il est vraiment mauvais. Oui. Le système de la Cour de justice.
Est-ce qu'il y avait un problème à cette idée du filtrage par une commission...
L'aiguillage.
Oui, j'allais dire aiguillage, ça me faisait penser à la théorie de l'aiguillage. De l'aiguillage par une commission de haut magistrat, parce que la question elle-même de savoir... ce qui est responsabilité pénale et ce qui est responsabilité politique est une question politique. Mmh. Et la retirer à la représentation nationale me semble, faire une confiance très grande, pour ne pas dire un petit peu trop, dans nos magistrats. Deux, retirer aux politiques quelque chose qui est de sa province, qui est de son ressort. Et au fond, une fois qu'on dit, une fois que ça a été tranché dans un certain sens, c'est une décision politique et ça me gêne qu'elle soit donnée à des magistrats. C'est peut-être un peu de l'association d'idées, mais moi, je pense un peu, excusez-moi, je ne sais plus qui l'a dit, mais qu'il n'y a pas grand-chose à changer dans le dispositif d'engagement de la responsabilité, mais qu'il y aurait peut-être quand même des choses à nettoyer sérieusement dans la conception française de la séparation des pouvoirs et que ça pourrait avoir un retentissement intéressant sur la pratique de la responsabilité. Moi, une chose qui me choque et qui ne lassera jamais de nous choquer, c'est notre article 64. Dans la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le renard est garant de la survie du poulailler. Au fond, je pense que là, on fait quand même un peu trop confiance à la magistrature, haute ou pas haute. Il y a des questions foncièrement et intrinsèquement politiques. Et à la limite, qu'il y a une incapacité du politique à les trancher, ça ne veut pas dire qu'en transférant la capacité de le faire à d'autres, ou même une fonction d'aiguillage ou de filtrage, on obtiendra des meilleurs résultats. À la limite, ce qui va, à mon avis, dans le bon sens, c'est quand on augmente les pouvoirs d'information ou les obligations de déclaration ou ce genre de choses, parce qu'à la limite, le vrai travail, il est là encore quand même un petit peu fait par l'opinion. Je pense que les chances de M. Woerth de redevenir ministre ne sont pas très grandes, et ainsi de suite. Donc au total, le manquement au devoir de la charge, il est constaté par l'opinion, il est constaté par... C'est comme la différence qui se
fait. Donc tu es sûr qu'il existe?
Je suis pas sûr qu'il existe, mais je pense que quand il se perd, non. Mais quand il se perd, c'est comme ça qu'il se perd. Et au fond, ce qui me frappe beaucoup, c'est que le grand remplaçant de la responsabilité, c'est le discrédit. On a des gouvernants dont la responsabilité n'est pas engagée, mais certains sont lourdement et manifestement discrédités. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que ça peut aussi produire de la violence politique et de la radicalisation et de la montée des extrêmes, mais je préfère quand même encore une société dans laquelle il y a de l'information qui se diffuse, une société dans laquelle toute information est bloqué. Je suis presque plus choqué. Cet article 64 est une illustration de ce qui me choque. Un autre truc qui me choque, c'est tel ou tel grand capitaine d'industrie, parce que son papa l'était, qui vient devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, et quand on lui pose une question sur des malversations financières, il répond en souriant: je suis mon poker. Ça me choque extrêmement profondément aux États-Unis. Le type aurait. Ça n'aurait pas traîné. Et au fond, je pense que je suis très mauvais en ingénierie constitutionnelle. J'aurais une certaine tendance à dire que si on veut vraiment faire quelque chose, ce genre de révision du dispositif de la séparation des pouvoirs, ça peut être la direction dans laquelle on devrait chercher.
Un des aspects que vous venez d'aborder me paraît quand même problématique, parce qu'il y a l'effet passage du temps. Woerth n'a pas beaucoup de chances de redevenir ministre prochainement, mais Fabius en a beaucoup. Non, pas tant mieux. Je pense qu'il y a un moment où il faudrait que les choses soient claires une fois pour toutes. Il a fait qu'il était là, comme vous disiez tout à l'heure, il était là au mauvais moment. Et au moment où les choses.
Ça, c'est la responsabilité politique. La responsabilité politique n'a jamais empêché quelqu'un de redevenir ministre si les conditions politiques sont réunies. C'est la grande différence avec la responsabilité pénale.
Non. Puis on peut estimer que Laurent Fabius n'a pas pu être ministre pendant suffisamment d'années pour qu'aujourd'hui on claque l'affaire.
Oui, il y aurait une péremption.
Parce qu'une prescription, ce qu'il disait, il y a dans l'échelle des peines, c'est peut-être.
Oui, si tu avais son
il est déjà revenu. Mais alors, la composition de la commission, on ajoute le président de l'Assemblée, le président du Sénat.
60 députés, 60
sénateurs. Non, mais pour répondre à ce que disait Denis, moi je suis. Honnêtement, je ne crois pas qu'on puisse d'être un fanat des magistrats. Donc, si je prévois leur intervention, c'est vraiment faute de mieux. Mais dans la logique de rationalisation qui consiste à contraindre le Parlement à exercer un pouvoir qu'il n'a pas envie d'exercer, on ne peut pas s'en remettre à lui. Il faut bien que ce soit une autorité extérieure qui le saisisse. Si c'est tous les citoyens, ça veut dire que tout ira à la corbeille à papier. Il n'y aura pas d'obligation. Donc voilà, c'est un regret.
Si tu pars du principe que le Parlement ne peut statuer que via une majorité.
Non, mais il ne peut statuer que si quelqu'un, que si on le force. Mais l'opposition, c'est pareil. L'opposition, si les scrutins n'étaient pas publics, elle serait très, très, très contente. Très contente.
De...
Que les scrutins ne soient pas publics.
Et alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Mais
si, ils adoreraient ne pas avoir de compte. Même dans l'opposition, ils adoreraient ne pas avoir de compte à rendre et pouvoir voter vraiment comme ils veulent. Mais ça supposerait que ce ne soit pas public.
Oui, d'accord. Et alors, donc, il y avait la question soulevée par Denis. Il y a, je reviens, cette histoire de... bon, certes, il y a tout ce processus, certes, il y a une commission d'enquête, certes, on va forcément mettre en lumière des faits qui, le cas échéant, sont tout à fait scandaleux, inadmissibles, inacceptables, etc., etc. Et mettons-nous dans l'hypothèse où on arrive donc manifestement à une situation dans laquelle il y a eu manquement incompatible avec le maintien des fonctions, et pourtant, bah, comme c'est la majorité qui continue à décider, la majorité va donner son titus malgré tout.
Et bah, c'est... Il y a un transfert, si j'ose dire, de responsabilité politique. La question a été clairement posée, il y a eu un débat public, une commission d'enquête, des conclusions. La majorité dit il a fauté, mais on veut le garder quand même. Et là, pour le coup, on en revient à confère supra, on verra aux prochaines élections. Et si aux élections suivantes, les Français considèrent que ce n'est pas grave, la même majorité sera reconduite. Et tu sais que dans une hypothèse comme celle-ci, j'ai souvent dit à propos du statut du chef de l'État, quand quelqu'un a objectivement fauté, il devient radioactif pour son propre camp. Le sauvetage par la majorité politique au nom de la solidarité, c'est tant que le doute existe. Le jour où le doute est levé au terme d'un travail d'investigation, il n'y a plus personne pour défendre. Qui s'est levé pour défendre Éric Woerth ou Georges Tron ? Georges Tron pourtant, il n'est pas... Bon, enfin, peu importe. Personne. Personne. Tout le monde prend un air à deux airs, en regardant ailleurs, Georges Tron, je ne le connais pas, mais je suis sûr que c'est quelqu'un d'autre, enfin, vous ne le connaissez pas plus que ça, bon.
C'est vrai, par exemple, plein de gens, c'est tout à fait vrai, mais plein de gens se sont levés pour défendre Berlusconi très longtemps. Il y a des contextes politiques où, au fond, on est protégé de cette radioactivité.
Ouais, enfin, c'était surtout ceux qui lui étaient...
Certes, mais ce que je veux dire, c'est que justement... Là,
on trouve toujours des séides. Mais est-ce que c'est une majorité quand le camp politique est pris de bois dans la confiture, non?
Berlusconi était président du gouvernement et donc là, le désavoué, c'est un peu
différent. Il y a eu un sacrifié ministre, vous le blâmez.
L'esprit de l'opinion sur
deux. Mais oui, mais rappelle-toi, Collor de Védo, il y avait 60% de la majorité au Parlement et puis ensuite... Collor de Védo, moi, je ne connais pas, non, je vote son infection tout de suite.
Mais il y a eu des cas de ministres qui ont fait l'objet d'une motion de censure en Italie à l'époque de Berlusconi, puisque je ne vois pas que ce puisse être autrement.
À titre individuel,
oui. Alors, il y a un cas un peu plus ancien dans les années 90, mais il y a eu un cas il y a deux ans, je dirais, ou une chose comme ça.
Pour aller dans le même sens, on peut se poser la question de... Enfin, il mérite en tout cas d'être posé, elle aussi, du rétablissement de l'interpellation. L'interpellation existe toujours dans le règlement de l'Assemblée nationale. Simplement, dans le règlement de l'Assemblée nationale, on ne peut interpeller un ministre qu'en accompagnant cette interpellation d'une motion de censure contre la totalité du gouvernement. Parce que la responsabilité individuelle n'existe pas dans la Constitution. Mais sous la 3e et la 4e République, l'interpellation existait, elle a été pratiquée énormément. C'était l'un des effets de déstabilisation du régime. Aujourd'hui, nous savons que tout un tas de précautions utilement prises en 1958 pour lutter contre ces instabilités ont perdu leur raison d'être. Parce que le risque d'instabilité n'est plus du tout le même. On avait banni le vote de résolution parce que c'était un moyen de mise en cause, de détourner la responsabilité du gouvernement. En 2008, on a rétabli les résolutions sans que ça pose le moindre problème. Il me semble que l'on pourrait refaire la même chose. Après tout, l'une des choses qui me fascine personnellement sur la Constitution de 1958, c'est que ceux qui l'ont faite n'ont rien inventé. Rien. Ils ont pris dans le stock d'idées existantes... Flimelin, le projet Gaillard et tout ça, et puis ils ont fait une assez habile synthèse qui marche encore peut-être 60 ans plus tard. Bon, on peut, nous aussi, si j'ose dire, à nos générations, à notre tour, reprendre des choses qui présentaient de vraies vertus elles aussi dans le passé, dont on sait très bien pourquoi elles ont disparu, mais qui aujourd'hui mériteraient peut-être de renaître. Et franchement, l'interpellation, ça ne me paraîtrait pas absurde.
Mais ça, mais pour nous le dire, mais en Allemagne, on peut. Et est-ce que ça sert quand même à quelque chose?
Pas vraiment. Je ne crois pas qu'une motion de blâme ait été votée à la majorité, mais le Bundestag, malgré le dispositif qui, à part vue de l'extérieur, est ultra rationalisé, n'interdit pas donc que le Bundestag vote une résolution blâmant un ministre.
Klavner-Anfang, c'est ça?
Oui, enfin, en l'occurrence, c'est conclu, ça c'est le débat en lui-même, il est conclu par le vote d'une motion, d'une résolution qui blâme le ministre, et les statistiques montrent qu'il y en a eu toute une série.
Si on l'arrête à juste, il y a eu des démissions
comme ça, je crois que...
Peut-être ont-ils démissionné avant d'être blâmé.
Oui, c'est plus ça, il y a eu des démissions de ministres, mais la pression était insupportable avec la pression de l'opposition. Je n'ai pas souvenir qu'une motion directe ait conduit ça. Mais elle n'était juridiquement pas obligatoire, c'est ça qu'il faut bien voir, bien sûr.
Si on rétablit l'interpellation dans les conditions de Kotozegui, il faudra que ce soit le constituant qui le fasse. Il faudra qu'il soit extrêmement explicite, parce que sinon le Conseil constitutionnel va tout de suite censurer ou mettre une réserve pour la
votation. Non, mais ça ne
sera pas renvoyé une loi
organique. Ah non, mais ça ne peut être fait que dans l'article 49.
D'accord, voilà, oui, ça. De manière extrêmement explicite, il faut dire les effets de cette interpellation.
Bien sûr.
Sinon le Conseil ne
peut
pas. Soyons francs, on mettra à la place de l'article 49, il n'y a plus d'article 49.
Non, pourquoi? Vous pensez que l'article 49 disparaît si on ajoute la responsabilité individuelle?
Je crois qu'on commence à flirter avec le danger que lui.
Bien, alors malheureusement, on va devoir rester sous l'effet de cette menace terrible et abominablement angoissante qui clôt nos débats sur une lutte sinistre et inquiétante. Mais. J'étais prévenu que Donc merci à tous en tout cas. Merci beaucoup aux intervenants, merci à public séminaire.